Alors, bonjour. Mon propos porte sur le contrôle de l'information gouvernementale. Ouh là là, moi, je ne verrai rien. Ça va? Jeu politique et enjeu démocratique. Dans un colloque semblable, il est rare qu'on parle d'institutions. Hein? On est plutôt, on a un peu de problème avec les institutions, un peu de dédain à gauche des institutions. Mais comme on m'a demandé aujourd'hui de parler d'information gouvernementale, je n'ai pas vraiment le choix que d'aborder la question des institutions et des institutions fédérales. Alors, la caricature que vous voyez fait référence au rapport que M. Harper a avec les journalistes, qui est un rapport extrêmement difficile. D'ailleurs, en juin dernier, un groupe de présidents de tribunes de la presse à Ottawa et un peu partout dans les différentes provinces se sont élevés contre les manières d'agir de M. Harper. Mais évidemment, quand on parle de contrôle de l'information, il n'y a pas uniquement les rapports de M. Harper avec les journalistes qui comptent. Il y a également le contrôle de l'information de ses propres députés et ministres. Mais ça, je n'en parlerai pas du tout. Ce qui m'apparaît plus important, c'est le contrôle de l'information de la fonction publique. Ça m'apparaît vraiment beaucoup, beaucoup plus important. Alors, j'ai eu la permission de Michel Garneau, de Garnotte, autrement dit du Devoir, pour vous montrer cette diapo. Alors, M. Harper communique beaucoup. En fait, il a un site web absolument extraordinaire. Vous pouvez aller le visiter. Il y a la photo du jour, il y a la photo du mois. Il y a vraiment de très, très belles photos, comme vous voyez. Alors, il fait beaucoup de relations publiques, mais aujourd'hui, c'est la communication d'intérêt public qui m'intéresse. Donc, ce n'est pas ce genre de photo que je vais vous présenter. Alors, je posais la question, le néoconservatisme tel qu'il se vit à Ottawa, contient-il une dimension procédurale? En plus de sa dimension idéologique. Alors évidemment, ce colloque-ci est l'occasion de discuter de l'idéologie néoconservatrice. D'autres que moi pourront en débattre davantage, discuter de sa composante libertarienne ou enfin de sa dimension morale. Moi, je m'intéresse davantage aux méthodes, aux pratiques. Est-ce que finalement le néoconservatisme tel qu'on le voit à Ottawa, c'est aussi une disposition d'esprit? Donc, il est très clair que, quand on parle de contrôle de l'information, je vais vous parler d'accès à l'information, du processus d'accès à l'information comme tel, mais il est très clair qu'avant 2006, ce processus fonctionnait assez mal. Et donc, pour être honnête, je dois préciser un certain nombre d'éléments là, de ce processus d'accès à l'information. Alors, la loi sur l'accès à l'information a été promulguée en 1983. Et tous les commissaires à l'information successifs au Canada se sont plaints de la culture du secret qui existe, qui existe encore chez les élus et chez les hauts fonctionnaires. Donc, une difficulté majeure, d'une part, réticence généralisée face à l'accès à l'information de la haute fonction publique et des élus. À l'intérieur même de l'administration, de la loi, le gouvernement est juge et parti pour plusieurs aspects fondamentaux de l'accès à l'information. Et enfin, il y a évidemment des ratés célèbres qu'on ne peut pas oublier en matière d'accès à l'information, puisque lors de la commission Montgomery, on a appris qu'il y avait une destruction de documents. Quand on parle du scandale du sang contaminé, il y avait également eu destruction de documents. Donc, évidemment, ça n'allait vraiment pas très, très bien en matière d'accès à l'information. Qu'est-ce que c'est que l'accès à l'information? Bien, c'est un processus. Le juge Laforêt de la Cour suprême en 1997 disait que c'était une manière d'améliorer la démocratie pour faire en sorte que les citoyens soient davantage informés. C'est aussi une méthode pour améliorer la reddition de comptes des élus et de l'administration publique. Par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que même si avant 2006, le processus d'accès à l'information ne fonctionnait pas très bien, à partir de 2006, ça s'est mis encore à aller encore plus mal. En fait, la différence fondamentale entre ce qu'il y avait avant 2006 et après 2006, c'est celle-ci. Avant 2006, il y avait un système de traçabilité des demandes d'accès à l'information sensible politiquement. Et ce système de traçabilité permettait aux ministres et permettait au gouvernement en général de contrôler l'information et d'être au courant des réponses qui étaient données aux journalistes. Donc, ce système a été bel et bien documenté, entre autres, par Alasdair Roberts, qui est un professeur de droit. Donc, ce système-là était très, très clairement établi. À partir de 2006, que M. Harper a mis en place, c'est un système d'accès à l'information où non pas les informations, les demandes sensibles sont identifiées, mais c'est que l'ensemble des informations doit transiter par le bureau du conseil privé, qui est, comme vous le savez, le ministère du Premier ministre. Donc, il y a un contrôle de l'information très, très large qui existe présentement. Alors, même les demandes les plus anodines aboutissent au bureau du conseil privé, de telle sorte que le travail des journalistes et des chercheurs est extrêmement compliqué. Donc, on peut considérer que les difficultés actuelles en matière d'accès à l'information viennent d'un important écart entre la vision qu'ont les conservateurs de l'information gouvernementale. Et l'information, elle est toujours instrumentalisée pour des objectifs stratégiques, entre autres pour essayer de gagner certaines clientèles électorales dans certains coins du pays, dans certaines villes. Et d'autre part, une vision qui émane d'un système institutionnel fondé sur l'usage de l'information comme ressource cruciale en démocratie. Alors, évidemment, et c'est là où on parlait d'institutions dans un colloque semblable est un peu peut-être étonnant pour vous, mais il faut quand même réaliser un certain nombre de choses. C'est qu'on a ce système d'accès à l'information qui fonctionne mal, bien sûr, mais qui existe tout de même. On a aussi au Parlement des procédures, on a aussi des agents du Parlement, la vérificatrice générale, les commissaires à l'information, commissaires au lobbying, commissaires aux langues officielles. Donc, le Parlement, les agents du Parlement, on a les tribunaux, on a les organisations indépendantes. Et en réalité, ce qu'on... j'arrive pas à reculer, hein? Donc, on a donc ce système qui est tout à fait bien organisé. Et en fait, dans les démocraties occidentales, on voit bien que ces systèmes de contre-pouvoirs institutionnels se sont mis en place petit à petit. C'est donc un système qui existe dont le mandat est d'analyser l'activité gouvernementale en fonction des normes reconnues et de poser un regard critique sur l'activité gouvernementale à l'aide de méthodes redevables d'une communauté scientifique, que ce soit les comptables pour la vérificatrice générale ou encore des méthodes d'analyse juridique pour d'autres agents du Parlement. Il s'agit donc de cueillette de l'information, d'analyse de la preuve, d'usage de connaissances empiriques les plus récentes et de divulgation de la preuve. Alors, ces contre-pouvoirs institutionnels existent et c'est à l'aide de ces contre-pouvoirs institutionnels que les citoyens et les citoyennes aussi peuvent se faire une opinion plus éclairée de l'activité gouvernementale, des pratiques gouvernementales. Ces contre-pouvoirs institutionnels renvoient à l'idée qu'un système politique démocratique doit inclure des institutions permettant d'en évaluer les dysfonctionnements et de rendre publics les constats effectués à la fois pour les députés, les citoyens et les citoyennes. Il y a donc une sorte de rétroaction, une sorte de réflexivité qui doit exister dans l'appareil gouvernemental et ça permet de favoriser la reddition de comptes. Donc, aujourd'hui, les difficultés en matière d'accès à l'information proviennent d'effets de conjoncture, d'une dimension idéologique et également d'une dimension procédurale. On peut faire une courte mise en contexte des difficultés de l'information depuis 2006, parce que, évidemment, quand on parle de communication politique ou d'information gouvernementale, il faut prendre compte, il faut tenir compte du fait que les pratiques sont tout aussi importantes que les discours. Quelquefois, les pratiques sont même plus importantes que les discours. On a nommé, alors, très, très tôt dans le mandat de M. Harper, on s'est préoccupé d'accès à l'information. On a nommé Robert Marlow, commissaire à l'information en 2006. Alors, M. Marlow est un ancien greffier de la Chambre des communes, donc un spécialiste de la procédure, mais qui n'a pas de formation juridique. Alors, on voit tout de suite qu'il pouvait... C'était pas très, très. C'est une nomination qui a été contestée. Dans le rapport de 2009 hors délai, même si M. Marlow a été nommé par le gouvernement, ben, il a effectivement indiqué que toutes les organisations gouvernementales sous enquête se plaignaient des délais imposés par le bureau du conseil privé. Donc, évidemment, quand on fait des demandes d'accès à l'information, les processus sont complexes, mais lorsque ça bloque au bureau du conseil privé, évidemment, tout arrête. En matière d'interférence politique, il y a présentement trois autres enquêtes au bureau de la commissaire à l'information, Suzanne Legault. Mais évidemment, là, on a su cette semaine que c'était vraiment officiel. Les interférences politiques existent bel et bien. D'ailleurs, ces interférences avaient été documentées par Lasdair Roberts il y a quelques années déjà. Et enfin, la commissaire à l'information a indiqué l'an dernier que le droit d'accès à l'information était maintenant presque anéanti. Donc, dans le rapport délai, on retrouve un ensemble de données. Alors, vous voyez, toujours intéressant de voir ce qu'on retrouve dans ces rapports des contre-pouvoirs institutionnels. Alors, j'ai ciblé le bureau du conseil privé. Normalement, la loi accorde un délai de 30 jours aux organisations pour répondre aux demandeurs. Alors, le bureau du conseil privé, c'est distingué par le 127 jours, évidemment. Alors, on arrive partout. Précédent. Alors, quand on parle des plaintes également, on voit les pourcentages de plaintes qui sont fondées, les plaintes concernant l'accès à l'information. J'ai souligné encore là le bureau du conseil privé. Alors, il y a des listes comme ça. La liste n'est pas exhaustive, mais on voit vraiment des délais extrêmement importants. Alors, je fais une petite parenthèse ici parce que vous avez sans doute remarqué le 80% pour Radio-Canada. Bien, ce sont des plaintes qui sont faites par un avocat qui est engagé par Pierre-Carl Péladeau. Alors, là-dessus, je pense que c'est difficile de se prononcer sur... probablement que Radio-Canada, c'est aussi mal organisé pour répondre aux plaintes. Hein, c'est parce que Radio-Canada est soumis à la loi d'accès à l'information depuis très, très peu de temps. Donc, ils sont assez mal organisés. Mais bon, alors, si on met Radio-Canada de côté, vous voyez, là, les affaires étrangères, 72 % l'Agence du revenu, 85 % de plaintes fondées. Et le bureau du conseil privé est 39 % Alors, voilà, ça, c'est le bureau du premier ministre. Quand je parlais d'effet de conjoncture, alors effet de conjoncture, dimension idéologique, je fais référence à deux éléments en particulier. Alors pourquoi la circulation de l'information pose problème? Évidemment, M. Harper a voulu limiter les paroles finalement de son personnel parce qu'il est en contexte minoritaire, évidemment, là, c'est un peu plus délicat. Et il a aussi senti la nécessité de contrôler son personnel politique à cause de l'inexpérience de celui-ci. En 2006, on peut dire qu'il y a eu des députés, des ministres élus, de même que des attachés de presse engagés qui avaient relativement peu d'expérience. Donc, cette nécessité de contrôler les hommes et les femmes politiques. Et évidemment, la dimension idéologique du contrôle de l'information s'est fait sentir dans les premiers dossiers, environnement, justice juvénile, puisqu'on sait très bien qu'en matière environnementale, les positions du gouvernement Harper sont un peu en contradiction avec ce que disent la majorité des rapports scientifiques. Évidemment, M. Harper s'en est également pris à la haute fonction publique, qu'il pensait être libérale. Mais il y a également une dimension davantage procédurale. Et dans cette dimension procédurale, on voit qu'il y a une augmentation des contrôles pour l'ensemble des communications de la fonction publique. Bon, c'est un peu le goulot dont je parlais tantôt au bureau du conseil privé. Toutes les demandes doivent transiter par le bureau du conseil privé. Et il y a évidemment des gens là du bureau du premier ministre qui sont extrêmement actifs. On va voir également, c'est ça, le bureau du conseil privé, divulgation, qui n'est pas décidée par un responsable administratif de l'accès à l'information. Ça veut donc dire qu'on va utiliser du personnel politique au lieu du personnel administratif, du personnel qui a des compétences juridiques pour administrer l'accès à l'information. Et à l'intérieur de la loi sur l'accès à l'information, il y a une exception, c'est-à-dire qu'on ne rend pas publics les documents qui sont à l'usage du cabinet. Donc, c'est une expression consacrée, les documents du cabinet, et on a fait un usage très, très étendu de ce concept pour restreindre la circulation de l'information. Alors, évidemment, quand on parle de dimension procédurale et qu'on remonte à 2006 jusqu'à aujourd'hui, on voit là encore là qu'en matière de communication, ce sont les pratiques politiques qui posent problème ici. Alors, l'abolition du programme de contestation judiciaire, évidemment, à partir du moment où on ne peut plus utiliser ce programme qui existait auparavant, eh bien, le débat public est restreint. Élimination de plusieurs conseils consultatifs. Contestation des pouvoirs des organismes indépendants. Alors, parmi les organismes indépendants, il y a évidemment le directeur général des élections, avec lequel M. Harper est en conflit depuis 2006, la Commission canadienne du blé, la Commission du droit du Canada, la Commission de sécurité nucléaire, l'ambassadeur des affaires circumpolaires, le conseiller à l'environnement, le poste est aboli, le commissaire aux langues officielles, Statistique Canada avec Munir Chic. Bref, la liste est très, très longue. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Évidemment, les prorogations, c'est une autre méthode de réduire le débat public. Ça, vous l'avez sûrement vu. Le refus de comparution des adjoints politiques devant les comités parlementaires, alors c'est absolument illégal. Les comités parlementaires doivent, ont le droit de demander qu'une personne comparaisse, et on a interdit cette comparution. Refus de fournir des informations aux députés, donc la violation des privilèges parlementaires, dont on entend parler encore aujourd'hui. Alors, cette semaine, dans le Hill Times, on voyait bien que pour répondre à la question qui a été posée au sujet du manque d'informations sur les projets de loi sur la criminalité, le gouvernement est arrivé avec des documents, 1000 pages, 17 minutes avant la réunion. Alors, comme si, évidemment, on pouvait vraiment discuter. Ensuite, il y a les projets de loi omnibus. Alors, en général, les gens sont moins conscients de cet aspect des pratiques politiques, mais lorsque le gouvernement rend public son budget, normalement, il y a des documents, un projet de loi qui vise à mettre en œuvre le budget. Alors, ce projet de loi-là, entre 1995 et 2000, avait 12 pages. Entre 2001 et 2008, il avait 139 pages. En 2009, c'est un document qui avait 580 pages. Autrement dit, on a le temps de discuter de rien. Et on a évalué que ce 580 pages correspondait à 32 % de l'ensemble de l'activité législative durant l'année. En 2010, le document avait 883 pages. Et on a donc évalué que c'était 50 % de l'activité législative de cette année-là. Voilà. Alors, c'est des manières de restreindre l'information. Alors, évidemment, les fonctionnaires fédéraux en sont arrivés à l'idée que leur travail n'était pas reconnu, que même s'ils produisaient des documents scientifiques, le gouvernement n'en tenait vraiment pas compte. Les fonctionnaires fédéraux ont donc lancé l'année dernière le site lasciencepublique.com, un site parrainé par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. On explique qu'on est au service du bien collectif et on explique qu'on est des experts indépendants. Alors, cette notion d'indépendance scientifique a voulu être mise de l'avant, étant donné que le gouvernement conservateur fabrique des projets de loi qui vont un peu à l'envers, qui ne correspondent pas aux données scientifiques. Alors, pour terminer, je voudrais dire que M. Harper est un personnage politique extrêmement audacieux et il ne fera sans doute rien pour cesser cette restriction de l'information. Il a réussi à repousser les frontières des institutions démocratiques d'une manière assez importante. Alors, tant que pour les citoyens et les citoyennes, la question de la dimension institutionnelle de la démocratie n'est pas reconnue, bien, il ira très loin. Merci.